Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Dans l'épisode 9, on découvrait Camille et son postpartum rocambolesque, pour ne pas dire traumatique. Elle a pu surmonter tout cela grâce au temps qu'elle a pu se dégager pour penser et vivre autre chose que les douleurs de son postpartum. Le travail était son refuge et son entourage, son conjoint en premier lieu, les gardiens de ce temps si précieux pour elle. Curieux de connaître cet homme, si conscient des besoins de sa compagne, je suis donc partie à la rencontre de Côme, le conjoint de Camille. Et vous allez découvrir dans cet épisode le portrait d'un père comme on aimerait qu'ils le soient tous. Un père très impliqué, en toute simplicité et sans fanfaronnade, qui fait sa part et même un peu plus, sans demander ni médaille ni applaudissements. Côme s'investit en plus en étant parfaitement lucide sur ses privilèges en tant que père comme en tant que prof. Ses privilèges, il nous les décrypte tout au long de l'interview. Et cela donne un éclairage précieux sur la perception et le vécu de la paternité en France. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'interviewer. Bonjour Côme.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast de La Reprise.
Bah merci de me recevoir.
Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, présenter ta famille et présenter ton métier?
Oui, donc je suis Côme, j'ai 36 ans, donc je suis papa d'une petite fille qui a 19 mois tout pile aujourd'hui et je suis enseignant au lycée. Ça fait maintenant une dizaine d'années à peu près que je suis prof.
D'accord. J'ai reçu ta compagne il n'y a pas longtemps. Ta fille s'appelle Madeleine.
C'est ça.
Et elle est née donc il y a 19 mois à l'issue d'une grossesse pas simple, d'un accouchement... pas simple non plus, et on va dire d'un postpartum encore moins simple, ou en tout cas d'un début de postpartum encore moins simple. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu l'as vécu, ce désir d'enfant, et puis du coup, cette grossesse, cet accouchement et ce début de postpartum?
Ouais, alors pour reprendre les choses au début, moi ça fait... Enfin, je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai toujours voulu un enfant, ce serait un petit peu exagéré, mais donc avec Camille, on est en couple depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi, j'ai toujours dans notre couple cherché de la stabilité assez rapidement. C'est-à-dire, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que ça marchait bien et que donc bon, pourquoi attendre finalement ? Donc assez rapidement, je lui ai dit que moi, ça me dirait bien qu'on s'installe ensemble, qu'on vive ensemble, etc. Et un petit peu pareil pour avoir un enfant un peu plus tard quand même, hein, on a un peu profité de notre vie de jeune couple d'abord. Toujours dans un coin de ma tête, je m'étais dit, bon, un jour j'aurai un enfant. J'aurai un enfant. Je sais, la question de 2, 3, 12, ça je savais pas trop, mais un enfant c'était assez clair pour moi, quoi. Et donc après, Camille a mis un petit peu de temps à tomber enceinte entre le moment où on s'est dit on y va, quoi, et le moment où elle est tombée enceinte. Du coup, on n'a pas du tout été pris au dépourvu. On était assez prêts mentalement, en tout cas. On était assez contents de se dire ça y est, c'est parti, quoi. Après, au niveau de la grossesse, moi, je trouvais ça très chouette comme expérience. Enfin, j'étais assez curieux de voir. Ce qui allait se passer et puis donc de voir les choses arriver, quoi. À mon niveau, j'ai accompagné la grossesse comme j'ai pu de l'extérieur. Il y a eu effectivement des moments vraiment pas marrants, avec notamment des histoires de crise de calcul qui étaient assez pénibles. Bon, qui ont été beaucoup plus pénibles pour Camille que pour moi. Et, globalement, j'en garde un bon souvenir. Avant l'accouchement, il y a eu quand même toutes les histoires de préparation à l'accouchement. Ce qui est bien tombé, en fait, c'est que la plupart étaient pendant l'été. Oui. Donc c'était simple, j'avais pas d'excuse pour pas y aller.
Tu l'aurais fait si ça avait été pendant l'année scolaire ?
Je pense que je l'aurais fait, oui. Probablement pas toutes les séances. Est-ce que, par exemple, j'aurais sacrifié une heure de cours pour y aller ? Tu vois, rien que le fait de dire sacrifier.
Oui.
Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est compliqué de dire. Tout ce qui était conseil pratique, ça, j'étais très, 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 très désireux de ça. Parce que j'étais un peu angoissé quand même par rapport à ça, de me dire, bon, voilà, comment ça va se passer les premiers temps ? Est-ce que je vais réussir à... C'était pas vraiment est-ce que je vais réussir à faire ce qu'il faut. Je me suis dit, bon, je veux dire, même si on fait des énormes conneries, je pense qu'il n'y aura pas de souci, le bébé va grandir, etc. Mais c'est un peu ce désir de bien faire, mm-hmm. de pas faire de choses. Voilà. Et c'est à tel point qu'il y a même un cours, j'y pense là maintenant, il y a même un cours où je suis allé tout seul parce que je crois que c'était quand Camille était dans les derniers mois de grossesse. Et c'était un cours sur qui était peut-être optionnel d'ailleurs, sur le portage en écharpe du bébé. Et moi, je trouvais ça assez cool comme idée d'avoir mon petit bébé sur mon ventre, etc. Donc, j'étais le seul papa, d'ailleurs. J'étais pas le seul papa. J'étais le seul homme tout seul. Et puis, du coup, je m'étais entraîné avec un petit bouton en plastique. C'était assez marrant. Ouais. Et ça m'avait rassuré, en fait, de me dire, bon, bah, ce truc que j'avais l'air, qui me semblait extrêmement compliqué, en fait, ça va. Donc, peut-être que le reste, ça va bien se passer
oui,
aussi.
Oui, c'est sûr. Quand tu te rendais compte à quel point c'était surtout les mères, finalement, qui s'occupaient de leurs enfants, toi, tu t'es dit quelque chose par rapport à toi, ton implication future ?
La question s'était pas posée pour moi, en fait. Je me suis dit, bah non, moi, je serais... et c'est quelque chose que j'avais dit à Camille, que je serais, bien sûr, autant impliqué qu'elle. Ça, il n'y avait pas de question. D'autant que à l'époque, après, les choses ont un peu changé, mais à l'époque... On pensait qu'elle allait garder son travail en province à mi-temps après la naissance de Madeleine. Donc de toute façon, j'avais pas vraiment le choix. C'est-à-dire que Camille allait reprendre le boulot, donc elle allait être absente de la maison 2 à 3 jours par semaine. Donc de toute façon,
oui,
il allait falloir que je m'implique. Donc les choses étaient comme ça dès le départ. C'était le cas avant qu'elle tombe enceinte. Donc on savait que si on avait un enfant... ça se passerait comme ça, et Camille m'avait dit que voilà, elle comptait pas renoncer à ce train de vie là. Moi, il n'était pas question pour moi de lui faire renoncer non plus. J'appréhendais un petit peu, hein. Je vais pas dire que je m'étais dit, oh, c'est bon, tout va rouler et tout. Je m'étais dit, ouais, quand même, 3 jours tout seul, ça va être compliqué. Mais je me disais, bon, bah, on va le faire et puis on va bien voir. C'était quand même un peu ça, ma philosophie, quoi. C'est de me dire, bon, on va bien voir comment ça se passe. On a des amis qui sont mères célibataires autour de nous qui ont galéré, hein, mais qui ont réussi, quoi. Et je me disais, bon, bah, voilà.
Belle raison.
Du coup, nous, on sera deux, la plupart du temps, donc il n'y a pas de raison. Mmh. La seule chose que ça a peut-être changé un petit peu au niveau de ma mentalité, mais c'était un peu induit par les autres aussi, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de, enfin pas mal, j'ai eu plusieurs potes qui m'ont dit, avec ou sans enfants d'ailleurs, qui eux avaient des enfants ou n'en avaient pas, qui me disaient, ah bah les premiers mois, voire les premières années, va falloir un peu mettre ta vie privée de ta vie personnelle de côté, tu pourras plus sortir le soir, tu pourras plus voir les potes, etc. La chose était pas forcément facile à accepter pour moi au début. Puis après, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, pendant 1 an, pendant 2 ans. Enfin, la première année, je mettrais mes soirées de côté, etc. Je fais pas mal de jeux le soir sur Internet. Je me suis dit, bah, j'en ferai pas pendant 1 an, et puis c'est comme ça. Mais c'était pas non plus le choix le plus difficile du monde. Je me suis dit, bon, si j'ai que ça à sacrifier, finalement, ça va aller, quoi, au niveau de l'implication, je veux dire. Et puis finalement, bon, il se trouve que en fait, j'ai pas eu vraiment besoin de sacrifier ça, donc ça s'est passé encore mieux que ce que je pensais, quoi.
Ouais, donc message rassurant pour les futurs parents.
Ouais,
donc,
ouais,
vous
ouais.
Mettez pas toute votre vie sous cloche.
Non, mais moi, j'ai un copain dont la compagne est tombée enceinte là il y a quelques mois, et c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit tout de suite, voilà, non, n'écoute pas forcément que les sons négatifs. Chaque enfant, chaque bébé, c'est différent. Donc oui, peut-être que tu seras la tête sous l'eau, mais peut-être aussi que tu arriveras très bien à faire tout ce que tu veux, etc.
Mmh, c'est vrai. Tu disais tout à l'heure que tu appréhendais un petit peu les moments où Camille irait retravailler et puis irait du coup faire ses déplacements en province pendant 2-3 jours. Finalement, tu t'es retrouvé tout seul beaucoup plus vite que prévu.
Ouais.
Et ça, Camille n'avait pas encore repris. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment tu as vécu cette phase d'hospitalisation de Camille ?
Camille a été hospitalisée un peu plus d'une semaine, dans mon souvenir. Et Madeleine avait à l'époque un mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. C'était à peu près vers cette époque-là. Donc, on était un petit peu dans le moment des premiers mois qui n'était pas non plus, c'était pas l'enfer, mais ça avait été un petit peu fatigant, quoi, forcément. Moi, je m'étais mis à 75 ou 80%, je sais plus, cette année-là. On avait un peu réfléchi sur les différentes modalités de congés, etc. Et en fait, on s'était dit, comme on sait pas à quoi s'attendre la première année, parce qu'il y avait le choix entre je prends un congé long où je suis à la maison entre septembre et décembre, grosso modo. Mmh. Je travaille pas le premier semestre, mais ensuite, je reprends à temps plein.
D'accord.
Ou alors, avoir un temps réduit tout au long de l'année. Finalement, on a pris cette deuxième option en se disant, oui, c'est vrai qu'on nous dit toujours les premiers mois, c'est les plus difficiles, etc. Mais en fait, on sait, autant que je sois un peu plus disponible tout au long de l'année, au cas où, quoi. C'était toujours cette idée de au cas où. Voilà, je mets mes soirées de côté au cas où, etc. Donc, tout ça pour dire que j'étais assez disponible et que, en plus, quand j'ai pris mon congé paternité, c'est tombé juste avant les vacances d'octobre. Donc en fait, j'ai eu un mois de congé paternité. Ceci étant dit, l'hospitalisation de Camille, je crois, est tombée juste après ou pas longtemps après ce congé. Mais du coup, ça veut dire que quand c'est arrivé, j'étais quand même j'étais fatigué de fait, mais c'était pas non plus l'horreur. J'avais pu bien souffler avant, etc. Et surtout, j'avais eu un mois où vraiment j'étais 100% avec Madeleine, donc j'étais entraîné, quoi, en quelque sorte. Ça a pas été le truc où d'un seul coup je me dis oh là là, je vais me retrouver tout seul. Ça a jamais été le cas. Comment je vais faire avec ce bébé que je connais pas trop, etc. Donc le fait de rester, enfin de potentiellement m'en occuper tout seul, je l'ai pas trop appréhendé. Après, je pense que j'ai pas eu le temps de m'en appréhender parce que les choses sont allées assez vite. En fait, Camille, ça allait pas bien. On est allé à l'hôpital. On se dit peut-être qu'ils vont la garder quelques heures, etc. Comme ça avait été le cas à d'autres moments. Et puis là, ils nous ont dit non, là, il faut intervenir maintenant, quoi. Donc tout de suite, en fait, mon cerveau s'est dit là, on est en mode, on gère le truc, quoi. Tu réfléchiras après. Et puis on a quand même la chance, et j'en parle au présent parce que c'est encore le cas aujourd'hui, d'être très bien entouré au niveau de notre famille. Et donc quand Camille était hospitalisée, tout de suite ils nous ont dit si on peut faire quoi que ce soit, si on peut être là, etc. Du coup, comment ça s'est passé? Parce que je crois quand même que je sais plus si j'allais bosser ou pas.
Dans le souvenir de Camille, cette hospitalisation est arrivée juste au moment où tu reprenais.
Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'était vraiment la semaine de la reprise. Mais du coup, parce que je sais plus comment on a fait dans la journée. Alors là,
parce que sacrée reprise, du coup.
Oui, après, c'était une reprise avec un emploi du temps allégé, donc c'était quand même moins dur que si j'avais repris à temps plein. C'était donc du coup une charge horaire par semaine qui était quand même... c'était pas grand-chose. Mais... Donc je ne sais plus comment on a fait pendant la journée.
T'étais en mode robot automatique.
Il y a bien dû avoir quelqu'un qui s'occupait de Madeleine. On l'a pas laissé tout seul à la maison.
Parce que t'as travaillé.
Parce que j'ai travaillé. Mais ce dont je me souviens très précisément, c'est les soirées et les nuits. Parce qu'en fait, du coup, quand je rentrais, je passais voir Camille à l'hôpital, et ensuite je rentrais à la maison. Et donc souvent, c'était mes parents ou les parents de Camille. On a même eu des amis une ou deux fois qui sont venus faire le lien. Donc vraiment. Reconnaissance éternelle, quoi. Et comme mes parents habitaient juste à côté, mon père, et pas ma mère, hein, mon père, donc peut-être qu'il y a un truc familial aussi par rapport à ça. Enfin, ma mère s'est très bien occupée de Madeleine aussi, hein. Mais mon père, elle m'avait dit, écoute, si tu veux, en fait, je prends le dernier biberon du soir, donc qui était à l'époque vers 1 ou 2 heures du matin. Toi, tu vas te coucher. Moi, je reste sur ton canapé. Je m'occupe. De toute façon, Madeleine, à un mois et demi, en gros, elle dort ou elle mange ou elle est en train de se rendormir. Hein. C'était un peu les trois étapes. Donc, c'était pas trop compliqué à gérer pour lui. Et puis, donc, il faisait le dernier biberon vers 1h du matin, parfois 2h, il claquait la porte. Et puis, ensuite, moi, je me réveillais, je lui donnais son biberon aux petites heures de la matinée, quoi.
Super, ça va.
Voilà, donc, ça a quand même beaucoup aidé, parce que ça veut dire que j'avais des petites nuits, mais qui étaient quand même très facilitées par ça. J'ai tenu le coup. Voilà, c'était fatigant, hein, je veux dire. Oui. On est sortis de là, je dis « on », parce que Camille, c'était fatigant pour elle aussi.
Bien sûr.
On est sortis de là, on était vraiment crevés. Mais vraiment, ouais, on a eu beaucoup d'aide de tous les côtés et heureusement quoi, parce que c'est vrai que sinon
t'aurais assuré de toute façon.
Ouais, j'aurais assuré de toute façon, je pense que
t'aurais été obligé.
Oui, j'aurais pris un congé, enfin tu vois, je serais pas allé bosser quoi, clairement. C'est comme ça que ça se serait passé, mais là on a réussi un peu à conjuguer tout en même temps. Mais après voilà, comme tu le disais, j'étais un peu en mode robot, je gère le truc et puis voilà, donc mais ça a toujours été un peu ça, hein, de toute façon, dès qu'il y a eu un souci quelconque avec Madeleine, bon bah de toute façon on n'a pas le choix, on gère, et puis je veux dire, on peut râler dans sa tête quoi, mais après c'est là et puis on peut rien y faire, donc
oui, et puis on trouve des ressources,
ressources et on le fait, et puis on dormira plus tard.
Question, est-ce que tu penses que il y a eu autant d'aide et familiale et amicale parce que tu étais le papa, ou est-ce que de toute façon l'aide aurait été proposée si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire toi hospitalisée et Camille à gérer toute seule?
Alors, je pense que l'aide familiale, il l'aurait proposée de toute façon, parce que mes parents et mes beaux-parents, enfin tous les quatre sont très impliqués. Je pense mes beaux-parents un peu plus dans la j'allais dire l'éducation, c'est un peu tôt pour parler d'éducation, mais quand même, enfin dans la vie de Madeleine, quoi. Mmh. Ils sont très impliqués dans la vie de Madeleine. Donc je pense que l'aide familiale aurait été là de toute façon. L'aide des amis. Et d'ailleurs, c'est des amies filles hein, qui se sont proposées.
Ouais.
Une amie qui est mère de deux enfants, elle est venue pour faire la jonction, c'est-à-dire un moment où moi je pouvais pas être là. Oui, je crois que voilà. Donc du coup, maintenant je me souviens, je crois que dans la journée c'était plutôt les parents de Camille qui venaient aider, et le soir mes parents. Et du coup, selon les horaires de boulot du moment où moi je sortais, parfois il fallait faire la jonction pendant une demi-heure, une heure. Mmh. Et donc cette copine de la mère de famille s'était proposée, et une autre fois une amie qui habitait juste à côté, qui elle a pas d'enfant, mais en gros elle avait dit bon voilà, un enfant d'un mois et demi, c'est pas trop compliqué. Une fois que vous m'avez montré comment faire,
je t'aurais géré.
Ouais, elle avait pas trop froid aux yeux par rapport à ça. Mais pas d'amis mecs dans mon souvenir, en tout cas si je les oublie, désolé, mais je crois pas, hein, je crois vraiment, moi j'ai ces deux amis là en tête, et c'est d'ailleurs assez constant avec le reste, c'est-à-dire les amis qui sont venus nous rendre visite après naissance de Madeleine. Bon, pour le coup c'était un peu tout le monde, mais par contre les amis qui venaient avec un bon plat de bouffe, ou qui venaient en nous disant est-ce que je peux vous amener quelque chose, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, c'était toujours les filles, quoi,
parce qu'elles savent.
Parce qu'elles savent, et même celles qui sont pas mères savent, quoi.
Ah oui. Parce que cela étant dit, les pères qui sont, enfin les hommes qui sont devenus pères, ils sont censés savoir aussi.
Eh oui, c'est ça. Donc là, non, moi j'ai même eu voilà une copine qui n'a pas d'enfant. Alors sa sœur avait eu un enfant, mais tu vois, enfin donc elle savait un petit peu, elle était tante, on va dire. Mais bon, après j'ai envie de dire, dans les familles généralement, même si toi t'as pas d'enfant, tu connais quelqu'un qui a des enfants. Enfin comme
oui,
tu
oui.
dis, t'es censé savoir. Et c'est vrai que niveau des mecs, c'était un peu moins le cas, bon, sans que ce soit très surprenant, hein, malheureusement. Mais bref, pour revenir à ta question initiale, je pense que si ça avait été Camille, je pense quand même, vu les copines en question, je pense qu'elles auraient proposé après et qu'elles auraient aidé. Peut-être moins, je sais pas. Je suis pas sûr que la situation aurait été très différente, vu les personnes qui nous ont aidés.
D'accord.
Je pense que c'est plus par rapport à ça, quoi.
Et est-ce que tu te souviens de ta reprise? Est-ce que tu te souviens plus trop du coup de comment t'as géré ta journée, mais est-ce que tu te souviens de ton boulot à ce moment-là?
Donc ouais, dans la reprise, alors j'ai pas de souvenir précis. Ce que je me souviens, c'est que j'avais pas dit aux élèves que j'allais avoir un enfant, parce que alors là ça a rien à voir. Enfin peut-être, hein, je sais pas. Peut-être qu'inconsciemment c'est le fait que je sois un mec, mais bon c'est aussi que je parle pas de ma vie privée aux élèves. Hein, je sépare un petit peu. Enfin, mes collègues le savaient bien entendu. Je leur ai dit très vite. Je crois que j'ai fait une exception pour une classe qui était dans une situation un peu particulière, parce que j'ai une classe où c'est des élèves qui sont en soins-études.
Donc,
en soins-études. Donc, en gros, c'est des classes qui sont au sein d'hôpitaux de jour, avec qui le lycée est en partenariat.
D'accord.
C'est des classes beaucoup plus réduites pour des élèves qui, en général, c'est plutôt des questions de mental, de comportement.
D'accord.
Et on m'avait dit dès le départ, voilà, c'est des élèves qui s'attachent beaucoup. Quand t'es absent, vaut mieux leur dire pourquoi, pour pas qu'ils pensent que tu les délaisses. Donc eux, je leur avais dit, et je me souviens, ça m'avait fait quelque chose de le dire en classe, de me dire, voilà, je serai pas là parce que je vais être papa, et puis aucune réaction, évidemment. Mais quand même, quand j'étais revenu, je me souviens, j'en avais croisé un. Je crois qu'il m'avait dit « Alors monsieur, ça s'est bien passé ? Vous êtes papa et tout ?» Je dis « Ah oui, ça s'est très bien passé. » C'était à peu près tout, quoi.
Ouais.
Mais j'étais content quand même d'avoir ce lien-là. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Moi, ça m'avait fait ça après la naissance. C'est-à-dire, tu sors de la maternité, tu regardes un peu tout le monde, tu dis « Voilà,
je suis papa,
t'as envie d'aller le dire aux gens, évidemment. Voilà, tout le monde s'en fout. » Et là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire, je reviens au boulot. Évidemment, mes collègues le savaient, c'est-à-dire je leur avais envoyé des messages, etc. Donc là, ça c'était chouette de les revoir et dire alors vas-y raconte, montre tes photos, etc. Mais il y avait ce côté-là avec les élèves de est-ce qu'ils vont voir
est-ce que j'ai changé
puis évidemment pas du tout. Donc en fait au niveau de du boulot finalement voilà je me suis je m'y remets. Et je suis revenu dans ce rythme de boulot assez vite. Comme c'était en fait à horaire réduite, donc j'avais à peu près un tiers en moins de cours que ce que j'ai d'habitude dans l'année.
Ça a commencé après la naissance ou dès septembre ?
Dès septembre.
D'accord.
Ça a commencé dès septembre. Administrativement, j'étais obligé de le faire dès septembre. Donc j'avais déjà ce rythme de boulot allégé, donc je m'étais déjà mise dans ce bain-là. Et donc finalement, moi ça m'allait très bien. Enfin, ça m'a permis, je pense, de faire un peu l'équilibre entre les deux.
D'accord.
En tout cas, la reprise, ça m'a pas paru très compliqué, quoi.
D'accord.
Peut-être grâce à ça, sans doute grâce à ça.
Il y avait rien de marquant.
À part ce moment où Camille a été hospitalisée, où là ça a été compliqué. Mais après, finalement, il y a une routine qui s'est assez vite installée. Enfin, j'ai assez vite pris les marques. J'avais demandé, ça c'est comme le gros avantage quand t'es prof, c'est que tu peux faire des demandes, des vœux d'emploi du temps d'une année sur l'autre. Donc généralement en fin d'année, ton chef te dit bon bah pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous voudriez dans l'idéal pour votre emploi du temps. T'es pas obligé d'être exaucé, mais là pour cette année-là, je crois quand même que j'avais demandé ce qui est continué d'être le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de pas commencer trop tôt et de pas finir trop tard pour pouvoir aider Camille avec ces moments de transition, notamment du matin qui sont pas évidents, quoi. Donc j'avais quand même cette grande chance de commencer pas très tôt le matin, et pareil le soir je rentrais pas très très tard, donc il y avait quand même ce rythme qui facilitait beaucoup les choses. C'est sûr que si j'avais eu des cours qui avaient nécessité que je me lève à 6h du matin, etc., ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là c'était quand même assez tranquille tout au long de la semaine et tout au long de l'année, quoi, du coup.
Est-ce que la paternité a changé quelque chose dans ta relation au travail ou dans ta manière de travailler ?
Je pense un petit peu quand même. Alors, j'ai jamais fait partie de ces profs pour qui le travail c'est un sacerdoce, où on passe des heures à préparer ses cours, etc. J'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange et même parfois un peu malsain quand j'avais des collègues qui me racontaient voilà, j'ai passé tout mon week-end à préparer mes cours. Tout, je disais bah t'es fou. Enfin, il y a des manuels scolaires pour ça. Il y a ce truc très répandu chez les profs qu'il faut que tu fasses tes propres cours. Il faut pas utiliser ceux des manuels. Alors que moi je me disais on nous donne un petit peu de matos officiel, quoi, autant s'en servir. Mais je pense quand même que ce sentiment-là a grandi encore plus après. C'est-à-dire que avant, en fait, je me disais, ben finalement, moi, j'attache plus d'importance à ma vie privée, notamment à mes loisirs, qu'à mon boulot. Je suis très content d'être prof. C'est un boulot qui me plaît beaucoup, mais disons que j'allais dire, j'en rêve pas la nuit, mais c'est faux. Mais disons que voilà, ça me prend pas non plus
toute ta vie, quoi.
Toute ma vie. Je fais plein de trucs à côté, etc. Et là, quand il a fallu faire une place à Madeleine, comme je t'avais dit tout à l'heure, je m'étais préparé mentalement à réduire mon temps de loisirs. Et je pense que quand même, je m'étais dit bon ben, en tout cas cette première année-là, mes courses vont moins bien, je ferai plus de recyclage, etc. Parce que ben c'est comme ça quoi. C'était même pas envisageable pour moi de me dire je vais continuer à passer des heures à préparer mes cours, etc. Mais même depuis, donc tu vois là, Madeleine elle a 1 an et demi, je pense que c'est un sentiment qui est resté, c'est-à-dire de me dire bon, mon boulot c'est mon boulot, je le fais sérieusement, je fais ce qu'il faut, mais je me plierai pas en 4, j'accepterai pas toutes les heures supplémentaires, etc. Parce que ben il y a ce temps de père auquel il faut que je donne de la place et qui est plus important pour moi que le temps de prof. Il y a très longtemps, je fais une petite parenthèse, mais bien avant que Camille tombe enceinte, quand on a commencé à parler d'avoir un enfant, donc c'était même avant qu'on essaye, etc. Je me souviens, j'avais dit une fois à Camille, ce qu'il avait beaucoup, je crois, choqué à l'époque. Je lui avais dit, moi, je pense que j'aimerais bien être père au foyer. Dédier tout mon temps, etc. Pas bosser et puis me faire que m'occuper de mon enfant. Je trouvais ça assez chouette. J'avais déjà un peu ce côté, genre, bah non, pourquoi ce serait forcément la mère, etc. Et puis, à l'époque, j'étais pas encore prof au lycée. Je donnais des cours, mais c'était des à droite, à gauche, dans des facs, etc. Et je me suis dit, bon, c'est pas un boulot qui m'intéresse, mais ça me passionne pas. Et je lui ai dit, voilà, si on avait, je savais que c'était pas possible parce qu'on n'avait pas les conditions matérielles. Si on avait les conditions matérielles, que tu gagnais bien ta vie, moi, ça me dérangerait pas du tout, voire même ça me plairait. Et ça l'avait un peu choqué parce qu'elle m'avait dit, mais ah bon, tu serais prête à me laisser, en gros.
Endosser toute la responsabilité
financière, voilà, exactement. Et bon, bah, finalement, ça s'est évidemment pas fait. Et puis finalement, quand je vois aujourd'hui ce que c'est vraiment de s'occuper d'un enfant toute la journée, notamment le week-end, je fais, mais heureusement que je ne suis pas père au foyer parce que je pense que ça m'aurait épuisé, quoi.
Ouais.
Donc, je raconte l'anecdote pour dire que ça veut quand même dire que cette part de paternité, dès le départ, même si je savais pas trop à quoi ça allait correspondre, pour moi, c'était vraiment
très important.
Très important. Il n'était pas question de mettre la priorité sur autre chose, en tout cas au début. Peut-être que maintenant, j'ai un peu plus mis l'équilibre entre les différentes parties de ma vie. Mais à l'époque, c'était vraiment, bon, bah voilà, la première année, ma priorité, c'est mon enfant, quoi.
Je pense que c'est lié à quoi? Je pense que c'est la première fois que j'entends un père me dire que, avant même d'avoir un enfant, qu'il se verrait bien père au foyer.
Je sais pas trop, c'est pas un modèle familial, dans le sens où mes parents se sont tous les deux occupés de moi à part égale. Donc mon père avait une place importante aussi dans l'éducation, mais pas plus que ma mère. Donc j'avais quand même ce modèle de paternité égale à la maternité, mais j'avais pas de modèle et j'ai toujours pas de modèle autour de moi de père à 100% père au foyer, quoi. Bon, il se trouve que là, dans mes amis jeunes pères autour de moi, on est assez sur la même longueur d'onde s'impliquer beaucoup, s'impliquer à part égale en fait, avec la maman, mais 100% du temps, oui, je sais pas d'où m'est venue cette idée. Je crois vraiment que c'était deux choses. D'une part, je pense que je m'imaginais que bon, finalement, s'occuper d'un enfant, en fait, dans ma tête, père au foyer, c'était être père au foyer d'un enfant qui avait genre 5-6 ans, tu vois. Et que donc, bon, bah, c'est pas très compliqué, tu joues un peu avec lui, on sort, on fait des trucs sympas, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, tout le côté sympa.
Tout le côté sympa. Il y a aucun problème.
L'enfant sera autonome, je serai là pour jouer, quoi.
Je vois pas en quoi ça pourrait être compliqué. En fait, j'avais cette vision peut-être aussi parce que, j'avais mon neveu et ma nièce qui avait déjà, je pense au moment où j'ai réfléchi à ça, ils avaient déjà peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. J'ai un filleul qui a à peu près le même âge. Et donc, bah, quand t'es oncle ou quand t'es parrain, tu vois que les bons côtés, en fait.
Oui.
Donc, donc moi, je voyais quand on les confiait, quand je m'occupais et tout, je me disais, bah, en fait, c'est facile. Donc, c'est gratifiant. Donc, je peux faire ça tout le temps. Je pensais pas du tout aux premières années. Donc, je pense déjà il y a cette chose là qui me faisait dire que bah en fait du coup ça c'était facile et même sympa. Et puis comme je te disais, mon boulot qui me passionnait pas, donc je me disais bon voilà, laisser ça de côté. Je me voyais pas forcément père au foyer toute ma vie, quoi. Mais c'était plus bon là les premières années. il y a ça me posait pas de problème. Je crois que en fait c'est sans doute ça, c'est-à-dire que je voyais sans doute ça comme quelque chose de plus, de mieux, de plus sympa que ce que je faisais à l'époque.
Ah oui, oui, d'accord. La promesse était était plus forte que la réalité,
dans ce sens-là. Je pense pas que c'était je mets pas en tout cas de grands trucs revendicatifs derrière de dire non moi je m'occuperai de mon enfant, etc. Enfin après j'ai ces principes-là, c'est-à-dire quand on a commencé à parler de ça, etc. Ça faisait déjà un moment que je m'intéressais beaucoup aux questions de féminisme, d'égalité des genres, etc. Donc ça a dû jouer, mais je pense que c'était vraiment en second plan, ou peut-être que c'était même quelque chose que je prenais comme excuse en disant voilà, moi je serais le super père et tout, mais en fait, si je suis honnête, je pense que derrière c'était plutôt ah, je vais être tout le temps avec mon enfant, ça va être super, on va bien rigoler, quoi. Voilà. Et encore une fois, comme je te le dis, voilà, aujourd'hui, si on me propose d'être père au foyer, à 100% du temps, je n'accepterai sans doute pas. Ou peut-être à partir de 5-6 ans seulement.
Ouais, bah, pour et avoir encore, un enfant voilà, qui a bientôt 5 ans.
Maintenant,
pas forcément.
Voilà, je vois un peu plus la réalité de même ce que ça peut être dans quelques années. Je me dis, non, en fait, c'est très bien que Madeleine soit gardée de temps en temps. Voilà.
Ouais, toi, ça te permet d'avoir un équilibre.
Ouais. Je suis très content qu'elle soit gardée pour moi. Et après, bah, il y a aussi le fait que l'assistante maternelle, elle fait ça depuis des dizaines d'années. Et on était aussi assez contents de continuer d'avoir cet accompagnement d'une personne qui finalement sait mieux que nous, en fait, comment s'occuper de notre enfant. Elle sait déjà les étapes qui vont arriver derrière, etc. Et donc, on se reposait beaucoup sur elle. On disait, bon, bah, maintenant, faut lui donner à manger comme ça, faut faire ceci, faire cela. Et donc, nous, on était, bah, très bien, c'est super. Comme ça, on n'a pas à gérer, on n'a pas trop à se poser ce genre de questions. Et donc au niveau, on parlait d'éducation tout à l'heure, au niveau de l'éducation dans ce sens-là, moi j'étais très content aussi de pas avoir à m'en occuper 100% du temps. Et là encore, pour revenir sur cette question de père au foyer, je pense que voilà, là aussi j'y pensais pas du tout au moment où j'ai dit ça, mais je me dis a posteriori, j'aurais dû gérer tout ça, prendre des décisions parfois lourdes de sens, de conséquences, sans trop savoir.
Quand lui faire à manger, à quel moment.
Ouais, c'est ça, sans trop. Alors bon, maintenant aujourd'hui on a internet, on a plein d'aides par rapport à ça. Mais je pense que ça aurait pas été facile, quoi. Donc on était bien content que quelqu'un nous enlève ce problème des pattes.
Aucune culpabilité, donc.
Donc, non, aucune culpabilité parce que... alors, je sais que je pense que Camille en a un peu plus que moi. On avait un peu plus que moi au début. Je pense que maintenant, c'est plus le cas. Mais quoique encore, tu vois, par exemple, quand nous, on a des vacances scolaires, donc on bosse pas, on est la journée à la maison. Et puis, Madeleine est chez l'assistante maternelle. Et parfois, Camille me dit, ah oui, quand même, là, on pourrait très bien s'occuper d'elle. Et je dis, bah non, on a aussi besoin de c'est, on bosse pas, mais on a besoin de ce temps-là pour se reposer. Mais j'ai pas de culpabilité par rapport à ça parce que et puis je sais que notre assistante maternelle elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Là quand les deux moments où elle a pas pu garder Madeleine, elle était très triste, elle nous a dit envoyez-moi des photos. Là fin avril quand elle a su qu'elle avait pu récupérer Madeleine, elle nous a appelé, elle était vraiment super contente en disant je vais revoir ma elle disait je vais revoir ma fifi. Donc il y a quand même un lien très fort et donc voilà, j'ai pas l'impression de que ce soit une personne qu'on exploite ou sur qui on se repose de manière honteuse, quoi. Mais après, c'est intéressant que tu parles de culpabilité parce que quelque chose que Camille a que moi j'ai pas, par exemple, ou que je ressens moins très souvent. Alors parce que, pardon, je dois dire avant ça que on a cette chance donc que Madeleine soit gardée par une assistante maternelle, mais en plus ses grands-parents s'en occupent beaucoup aussi. Et là, actuellement, ça fait plusieurs mois maintenant, je sais plus, 6 mois, peut-être même plus, qu'il s'occupe de Madeleine un jour tous les week-ends, soit le samedi, soit le dimanche. Mais quand je dis un jour, c'est vraiment ils la prennent vers le milieu de la matinée et nous, on la récupère le soir.
D'accord.
Donc, c'est quand même, c'est une chance absolue qu'on a, on s'en rend compte toutes les semaines, d'avoir...
Vous avez un vrai jour de week-end.
Un vrai jour de week-end, alors qui est souvent, évidemment, occupé par les lessives, les cuisines, les courses, machin, mais où quand même, on a du temps, ne serait-ce que faire une sieste ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, un luxe absolu. Et là-dessus, pareil, Camille, à un moment, me disait, ah, mais quand même, on pourrait s'en occuper le week-end. Je disais, oui, mais ça leur fait super plaisir à tes parents. C'est eux qui nous demandent. Donc, j'ai pas ressenti de culpabilité par rapport à ça, mais Je dis ça parce que ce soit le soir, mais encore plus le week-end, quand on va récupérer Madeleine en fin de journée, ça nous arrive de temps en temps d'y aller tous les deux. Et Camille me dit « Ah, j'ai hâte de la revoir, elle m'a beaucoup manqué, etc. » Et moi, je ressens un peu moins ce manque-là. Je suis très content de revoir Madeleine, mais j'ai moins cette anticipation de me dire « Ah, chouette, dans une heure, je vais la retrouver. » Parfois, c'est même l'inverse. Parfois, je me dis même... j'ai plus qu'une heure pour boucler ce que je voulais faire aujourd'hui, etc. Mais je crois que ça correspond peut-être à ce que j'ai vécu au début, c'est-à-dire de séparer les trucs, de me dire ok, de telle heure à telle heure, j'ai mon temps où je peux bosser ou faire mes trucs. Ensuite, je m'occupe de Madeleine et dans un cas comme dans l'autre. C'est vraiment à 100% ça, quoi.
Ouais, c'est ton organisation.
Quand je suis avec Madeleine, bon, évidemment, hein, ça m'arrive de répondre à un mail, etc., parce qu'elle joue dans sa chambre, ou des trucs comme ça. Mais quand même, j'essaie de me dire, ok, là, tu poses ton téléphone, tu poses l'ordinateur, etc., et puis t'es à 100% avec elle, parce que finalement, c'est 2-3 heures dans la journée. Et une fois qu'elle est couchée, une fois qu'elle est chez sa tante maternelle, là, c'est mon temps à moi, etc. Comme on est quand même dans une organisation où en dehors du boulot, j'ai quand même pas mal de temps dans la semaine, pas mal d'heures dans la semaine pour moi. C'est pas vraiment un choix difficile en fait de me dire quand je suis avec Madeleine, je m'occupe d'elle à 100%, etc. Si j'avais un travail, on en parlait un petit peu hors micro, mais si j'avais un travail dans une grosse boîte où je travaillais de 8h du matin à 19h. Je vivrais très certainement pas les choses de la même manière et très certainement j'aurais pas les mêmes réflexions sur la paternalité. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué de faire l'équilibre entre les deux. Là, c'est tout un tas de privilèges en fait qui me permettent de vivre ça comme ça, et ça je le sais bien.
Mmh. Oui, effectivement, le métier de prof est vraiment très compatible avec une vie de famille. C'est pas du tout un mythe.
Ah non, c'est complètement vrai, et c'est vraiment à tel point que avec Camille, on se dit très souvent mais comment font les gens qui sont, enfin pas comment ils font ce qu'ils peuvent.
Ouais, voilà.
C'est plutôt mais quelle force ils doivent avoir en fait pour gérer ces périodes de transition, etc. Ces moments où la crèche est fermée, et les moments de vacances scolaires.
Ouais, oui.
Bah les gens qui sont dans des boîtes, j'imagine qu'ils font beaucoup appel aux grands-parents, qui payent des gens pour ça,
des centres de loisirs,
etc. Mais quelle organisation et quel fric aussi, ouais. Ça doit coûter. Enfin c'est
sûr qu'avec seulement 5 semaines de congés payés, tu peux pas faire grand chose.
Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas du tout un mythe. En fait, je me dis, c'est même plutôt l'inverse. Je me dis mais pourquoi il n'y a pas ce genre d'arrangement, alors sans aller à des choses aussi larges que le métier de prof, mais en fait, la société française devrait se poser la question, est-ce qu'on veut être une société qui valorise le travail ou qui valorise la vie de famille ? Là, actuellement, on est plutôt une société qui valorise le travail. Et notamment pour les femmes, il y a quand même... Alors, il y a évidemment, il y a des congés, etc. Il y a des choses qui sont possibles. Mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Je veux dire... que ce soit les jours de congés, les assouplissements d'horaires, etc. C'est vraiment pas grand-chose par rapport au casse-tête que ça représente d'élever une famille et de travailler en même temps. Et je pense que en réalité, dans quand même pas mal de boîtes, en tout cas dans les grosses boîtes, etc., si les gens le voulaient, ce serait vraiment possible de j'ai peut-être une vision un peu idéaliste d'un milieu que je connais pas vraiment, mais j'ai l'impression quand même que si les gens le voulaient, ce serait vraiment possible de faire en sorte que ce soit moins compliqué, que ce soit pas un cauchemar logistique de s'occuper de ses enfants et de travailler à côté, quoi.
Alors moi, pour connaître bien le milieu de l'entreprise, c'est pas si simple.
Ouais.
C'est pas si simple, ne serait-ce que parce que tu parles des vacances, mais effectivement, oui. Si t'as que 5 semaines de congés payés, bah toutes les autres semaines de vacances, faut pallier. Et ensuite, après, t'as des questions, notamment pour les mères en particulier, de regard sur les décisions que tu prends, et du coup, les éventuels freins que ça peut te donner ensuite, si effectivement tu montres à ta hiérarchie que tu privilégies d'abord ta maternité, c'est-à-dire tu privilégies ta famille, donc si t'es pas prête à certaines concessions.
Ouais.
Et ça peut te revenir en boum.
Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'était par rapport au père, justement.
Ah oui.
De dire, bah, en fait, il y a finalement aucune raison. Alors, au niveau de la grossesse, c'est autre chose, mais je veux dire, une fois après la naissance, il n'y a aucune raison que tout ça repose sur les mères et qu'il n'y ait que les mères qui aient cette image-là. En réalité, En plus, je pense quand même, enfin, je veux dire, évidemment que tous les mecs qui travaillent dans des boîtes sont pas tous des pères horribles, etc. Et la plupart font ce qu'ils peuvent pour s'occuper de leur enfant au maximum. Et donc, ouais, c'est quand même complètement injuste que quand tu peux être, je sais pas, tu peux travailler, tu peux être, je sais pas, cadre d'entreprise, être père de quatre enfants. Et n'avoir pas du tout cette image-là, voire même avoir l'image d'un type super qui arrive, qui est hyper fort parce qu'il arrive à tout concilier, etc. Alors que sa femme qui fait la même chose, comme tu le disais, on va lui dire bah quand même, ça veut dire que t'es pas très impliqué dans la boîte, on va pas te donner la promotion, etc.
Effectivement, c'est la grande question qui se pose. Enfin, en tout cas, nous chez les mères, c'est pourquoi certains pères ne s'impliquent pas plus. Et c'est une question que j'allais te poser aussi, parce que j'ai interrogé un père qui m'expliquait que bah, dans le cadre de l'entreprise, lui, de toute façon, c'était bien simple, s'il voulait plus s'impliquer dans sa paternité, il n'y avait pas d'autre choix possible que de quitter le monde de l'entreprise et de créer autre chose, et de voilà, créer sa boîte et de changer complètement, parce qu'il ne voyait pas comment, dans le cadre de son entreprise et dans le cadre de système d'entreprise en France de manière générale, c'était possible de pouvoir concilier deux. Sans avoir un frein à sa carrière et des coupures dans son salaire. Donc, il y a ça qui joue, plus pour certains pères. Alors, c'est de moins en moins le cas, puisque maintenant, les familles sont quand même, les couples sont quand même très généralement biactifs. Mais bon, qui dit biactif dit pas forcément même égalité de salaire, loin de là. Et donc, repose aussi sur les pères beaucoup cette responsabilité et peut-être cette charge mentale d'assurer les finances du foyer. Et donc il y a ça aussi qui joue, et du coup ils se disent bah moi je peux pas perdre mon boulot, ou je peux pas être mal vu par ma hiérarchie, parce que bah les finances de la famille qu'on a su. Est-ce que toi c'est une préoccupation à un moment donné, parce que Camille m'a expliqué qu'elle s'était retrouvée au chômage à la suite de son congé maternité pour des raisons, on va dire, exécrables. Que c'est une préoccupation que tu as eue à ce moment-là,
La question financière, tu veux dire? Non, alors il se trouve qu'effectivement avant ça, et notamment bah, jusqu'à l'année de la grossesse de Camille, la situation était inversée, c'est-à-dire qu'elle gagnait plus que moi. Pas beaucoup plus, mais quand même plus que moi, et depuis assez longtemps elle a beaucoup plus de d'apport, comme on dit dans le langage financier. C'est une situation. Enfin voilà, pour moi, c'était depuis longtemps Camille qui gagnait plus, quoi. Et effectivement, là, ça s'est inversé depuis un an et quelques. Encore une fois, alors la différence est pas un peu plus quand même cette année, mais jusqu'à cet été, la différence n'était pas énorme. Mais je me suis jamais dit il faut, comme tu le décrivais, il faut que je garde mon boulot pour absolument assurer les finances du foyer, etc. On est des gens qui dépensent pas énormément, qui on a toujours fait attention à ça, etc. Enfin, on a toujours géré l'argent ensemble, donc il y a jamais eu ce truc de dire voilà, c'est moi qui gère cette question, c'est ma responsabilité. Ça a toujours été une responsabilité commune. Après bon, il se trouve que Camille a été au chômage, elle a retrouvé du travail assez rapidement, du travail certes moins bien payé qu'avant, dans des conditions plus compliquées, etc. Mais rien que le fait qu'elle ait du travail, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ok, elle est complètement au chômage, et donc là il faut pas que je déconne, parce que sinon ça va vraiment être compliqué. Mais il y a aussi le fait que je suis fonctionnaire. Donc c'est vrai que moi je pense que c'est une situation à laquelle je peux pas trop m'identifier, dans le sens où à partir du moment où je suis fonctionnaire, j'ai un emploi a priori à vie, à moins qu'un jour une réforme vienne mettre fin à tout ça, ce qui serait pas forcément un mal, mais cette question-là. En plus, ça veut dire que le système de l'éducation nationale du fonctionnariat fait qu'en fait mon évolution de carrière, elle est quasiment automatique,
et balisée,
à moins qu'il y ait une inspection dans une classe et que ça se passe super mal. Normalement, en gros, une fois que t'as fait ton stage, après, généralement, les choses se passent bien. Ah, donc il y a pas de d'angoisse par rapport à ça, parce qu'en fait il y a comme une grande stabilité par rapport à ça, mais ça veut dire qu'il y a aussi pas d'enjeu par rapport à ça. Il y a pas de moment où je peux me dire ouh là là, là il faut que je fasse attention parce que sinon je vais pas avoir de promotion, là j'aimerais bien avoir une petite prime, etc. La question se pose pas du tout dans le monde de l'éducation nationale.
Ouais, donc très décomplexé par rapport à tout ça.
Ouais, c'est ça, et c'est très libérateur en fait, parce que du coup, c'est assez reposant de se dire bon bah voilà, certes du coup on a un train de vie qui est très inférieur, je veux dire clairement, avec mes diplômes, mon expérience, etc. Si je voulais, moi je suis prof d'anglais, si je voulais faire un autre métier lié à l'anglais, je sais pas, de la traduction, quelque chose comme ça, je pourrais, je pense, gagner un tiers, hein, voire encore plus de salaire, mais avec voilà plus de peut-être à ce moment-là cette pression dont tu parlais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur la vision des pères, sur ce que je disais aussi sur voilà cette vision des pères vue comme des gens extraordinaires qui arrivent à tout conjuguer, etc. Ce qui est marrant, c'est que c'est triste en fait, c'est que même au sein de l'éducation nationale, même avec mes collègues qui sont en majorité des femmes, mais pas que, hein, il y a aussi quelques hommes dans le lot, mais mes collègues, et notamment mes collègues qui sont mères, m'ont systématiquement dit à propos du fait de prendre un mi-temps, du fait de prendre le congé le plus long possible, enfin pas le plus long possible parce que j'ai pas pris le congé parental pour des questions financières pour le coup, mais en tout cas toute cette question est très impliquée. Mes collègues mères à chaque fois me disent oh, mais c'est extraordinaire, etc. Bon après en étant honnête, ça c'est aussi le cas sur des trucs genre waouh, tu fais toi-même, je me souviens très bien de la première fois où je suis arrivé et que je m'étais fait mon déjeuner dans un Tupperware, et elle m'a dit ouais, c'est extraordinaire, c'est toi qui te l'es fait. Bah oui, enfin c'est voilà, c'est normal. Et c'est là je me dis quand même les mecs, on part avec des privilèges mais tellement cosmique, quoi. C'est-à-dire, tu fais ton déjeuner toi-même, t'es vu comme un héros, donc imagine ce que c'est quand tu t'occupes de ton enfant, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que quand Madeleine était encore petite, elle marchait pas encore, t'es allé passer quelques heures au parc avec elle, j'étais en tout cas un des rares mecs sur place, et je voyais bien que...
Ça intriguait.
Ouais, ça intriguait, quoi, tiens. Et là, elles me regardaient toutes comme si j'étais un héros absolu, quoi, le père qui s'occupe de sa fille, etc. Alors que j'aurais été une mère, elle m'aurait pas jeté un regard, quoi.
Mmh.
Elle m'aurait dit bonjour, et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais, on a ce regard société pour nous qui est ultra valorisant. Alors effectivement, peut-être que quand t'as des pressions, des questions financières et tout derrière, tu te dis bon bah ouais, j'ai quand même cette part-là à gérer, donc c'est pour ça que je m'implique un peu moins, que je fais un peu moins, etc. Parce que sinon, au niveau du regard de la société, il y a que des avantages à être avec ton enfant dans la poussette dans la rue et avoir l'impression d'être le meilleur père du monde, quoi. C'est ultra, c'est vraiment. Si t'as un coup de déprime, tu vois, tu fais ça et là d'un seul coup tu passes pour le meilleur père du monde, quoi.
C'est un message ça pour les pères qui se questionnent.
Et alors ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte récemment, l'autre jour, je vais avec Madeleine au parc. C'était la sortie du matin, donc un petit peu tôt, vers je sais plus 9-10 heures. Donc il y a pas grand monde dans le parc. Et en fait, le seul autre petit garçon qui était dans le parc, il était là avec son papa.
Mmh.
Et là, je me suis rendu compte que même moi, j'avais cette réflexion là. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, c'est son papa qui s'en occupe. Alors que moi-même, j'étais avec mon enfant. Donc, c'est pour dire que...
À quel point c'est intégré.
Ouais, à quel point c'est intégré. Après, je me suis repris, tu vois, mentalement. Mais il y a quand même eu ce truc-là. Alors que 20 minutes plus tard, il y a une mère qui est arrivée avec sa fille. Et je me suis pas dit plus que ça. Mais voilà, en tout cas, ouais, ce regard de la société sur les pères, effectivement. Si les pères qui nous écoutent, ou les futurs pères potentiels qui nous écoutent, si vous avez la possibilité d'aménager un temps pour ça, enfin, si c'est pas trop compliqué et trop risqué pour vous de réduire un peu la part qu'occupe le travail dans vos vies par rapport à ça, mais allez-y, parce que vraiment, y a que des avantages. C'est vraiment pas un mythe, ça, je le confirme.
Et ça n'enlèvera rien à leur masculinité, on est d'accord?
Bah non, pas du tout, parce qu'au contraire, tu te sens hyper fort, en fait. C'est vraiment un regard qui est posé sur toi qui est très flatteur, et effectivement de force dans le sens, C'est débile, hein, mais ce que je sens dans ses regards, et même parfois dans des remarques qu'on fait à demi-mot, c'est vous êtes trop balèze d'arriver à vous occuper de votre enfant. Je me dis, bah ouais, enfin, en fait, ma femme s'en occupe aussi, c'est pareil, quoi. Et je sais, par exemple, il y a l'aspect inverse, c'est-à-dire que Camille m'a déjà raconté des anecdotes, pareil, je savais que ça existait, évidemment, mais des anecdotes de gens qui lui font des remarques dans les transports en commun, parce que Madeleine pleure, etc., et qui, pas forcément des remarques désagréables, mais ne serait-ce que venir la voir et dire « Ah, vous savez, je pense qu'elle a faim, je pense que ceci, je pense que cela. »
Enfin, merci, je connais ma fille.
Ouais, c'est ça. Et ben moi, on m'a jamais fait ce genre de remarques, même des moments où Madeleine est ronchon, où ça va pas, etc. Peut-être qu'il y a des regards agacés, tu vois, parce que c'est jamais agréable d'entendre un enfant qui pleure, mais j'ai jamais eu de personne qui a
dû
me voir, de jugement où la personne s'autorise à venir me voir en disant « Vous savez, vous devriez plus gérer comme ça. » Alors qu'on pourrait se dire que dans les yeux des gens, je suis le père, donc je sais moins faire, et donc un conseil serait le bienvenu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas vraiment des conseils, en fait. C'est plutôt des reproches. C'est plutôt une manière de dire « Votre enfant a faim », c'est pas un conseil pour dire « Je sais pas si vous savez, mais peut-être que c'est plutôt...
Tu l'as mal nourri.
Tu l'as mal nourri. Et moi, en tant que père, j'ai jamais eu ce... Alors peut-être que ça arrive hein, parfois, mais moi, ça, là, en un an et demi de vie, ça m'est jamais arrivé. Alors que Camille, ça lui est arrivé plusieurs fois. Donc.
Ah oui. Oui, donc quand t'es père, en fait, t'as que des compliments, pas de reproches.
Mais c'est ça.
Pas de culpabilité.
Bah non, vraiment pas, quoi. Donc allez-y. Vraiment, c'est super.
Super. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose ou aborder un sujet en particulier?
Bah, je pense que non, je répéterai juste, puisqu'on en est à parler au futur père, il faut vraiment pas se dire que avoir un enfant, ça va... évidemment hein, que c'est un bouleversement, on va pas se mentir, mais déjà, c'est quand même un bouleversement qui est largement positif, très 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 largement, même quand il y a des situations pas marrantes, elles sont quand même assez brèves finalement, surtout sur toute une vie, quoi. Et surtout, faut pas se dire, ça y est, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma vie de jeune homme, comme dirait l'autre, c'est fini, je pourrais plus aller boire des coups avec les potes, etc. Bah, si, évidemment, tant que on est dans une organisation un petit peu équitable et que on a une soirée libre dans la semaine et puis la conjointe va également l'avoir. Enfin, après, chaque couple s'organise comme il veut. Mais en tout cas, c'est complètement possible de maintenir une vie sociale normale, quand il n'y a pas de confinement, en tout cas. Ouais, moi, c'est vraiment plus le confinement que la vie de père qui a réduit ma vie sociale et mon espace mental. Je me suis pas du tout senti depuis la naissance de Madeleine. Très, très rarement, je me suis dit, zut, je peux pas faire ça parce que je suis père. Très certainement, ça arrive. Hein. Malheureusement, il y a des enfants qui sont plus difficiles, qui demandent plus d'attention, etc. Mais voilà, si je peux donner un message positif, c'est celui-là, quoi. Ça peut aussi très très bien se passer. Ça peut être quelque chose de très épanouissant et qui nécessite pas beaucoup de sacrifices au final. Et je dis ça, attention, faut pas que croire non plus qu'il y a le côté ah ouais, ça y est, on lui a lavé le cerveau. comme on peut entendre parfois des femmes qui disent « Ah, l'accouchement, c'est super, etc. » Bon, parce que bon, bah, y a des accouchements qui sont super, hein, tant mieux. Mais je le dis avec l'esprit de quelqu'un qui appréhendait quand même ça pas mal, qui était prêt à faire des sacrifices. Et en fait, ça peut très bien se passer, quoi.
Super. Bah, j'espère que ça donnera envie. Merci beaucoup, Com.
Bah, merci à toi de m'avoir reçu.
Merci. À très bientôt.
À bientôt.
À travers les témoignages de Com et de Camille, on voit bien que le partage équitable des responsabilités, une communication ouverte et permanente, et du temps pour soi, sont les ingrédients d'une vie de parents épanouis. Et pourtant, même dans les couples les plus féministes, il subsiste un déséquilibre en défaveur de la mère, du fait des impondérables du corps, comme le soulignait Camille dans l'épisode 9, comme le regard, toujours jugeant, de la société sur les mères. C'est le constat que l'on peut faire en mettant en parallèle les deux témoignages. Celui de Camille, qui reflète les douleurs et les angoisses que le postpartum et la société imposent aux mères. Et celui de Com, nettement plus serein, parce qu'il n'a pas eu à vivre tout cela.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram,
@lareprise.podcast.